En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
François Bauducel, géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris, développe au cours de cette conférence les avancées qui ont été faites en matière d'études prédictives d'éruptions volcaniques. À travers l'avancée de ses connaissances, il revient sur les difficultés encore rencontrées pour développer un observatoire des volcans. Cette conférence se déroulait en juin 2011 au Bureau des Longitudes. Et pour mieux suivre les explications de François Bauducel, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication qui se trouve sur le site de Canal Académie. On retrouve tout de suite François Bauducel.
Aujourd'hui, je vais vous parler de surveillance volcanologique et de la problématique que ça pose, notamment aux observatoires de surveillance qui ont un rôle opérationnel de prédiction et avec des implications éventuelles sur des évacuations de population. Et je vais vous montrer un certain nombre de travaux, notamment autour des mesures et de la modélisation des déformations du sol. Alors tout d'abord, un petit rappel très général sur ce que sont les risques volcaniques, puisque je l'ai bien mis au pluriel. Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont dangereux émanant des volcans. Je les ai répartis en fonction du pourcentage de victimes que ça a pu causer alors sur la période historique, disons depuis 1600 après Jésus-Christ. Alors vous voyez sur le graphe, ce qui est en bleu, ce sont les nuées ardentes. Donc ce sont des nuages de gaz chaud. C'est le phénomène le plus dévastateur des volcans explosifs, responsable d'à peu près 35% des victimes dans le monde. Le deuxième pourcentage, ce sont les famines et les épidémies. Et donc ce fort pourcentage lié aux famines et aux épidémies, c'est essentiellement lié au Tambora en Indonésie en 1815, qui a fait 60 000 victimes à cause de la famine, effet secondaire du recouvrement d'un certain nombre d'îles de dépôts cendreux. Vous voyez le Krakatoa en Indonésie, qui est responsable de 36 000 morts. Alors ça, c'est une nuée ardente plus un énorme tsunami. Le Krakatoa était une montagne de 4 000 mètres d'altitude, une île qui s'est effondrée en mer entre Java et Sumatra. Et puis vous avez en troisième position la montagne Pelée en Martinique en 1902, qui a fait 29 000 morts par deux nuées ardentes, 28 000 la première et puis à peu près un millier pour une seconde. Alors toujours dans ces pourcentages, vous voyez à peu près 15% liés au tsunami. Et puis en jaune, vous avez les lars. Le lar, c'est un terme indonésien qui veut dire couler de boue. Et les glissements de terrain, donc responsables également de plusieurs milliers de morts. Et puis vous avez en tout petit 0,3% de victimes liées aux coulées de lave. Donc ça vous montre que l'image qu'on a du volcan qui fait des coulées de lave, c'est pas du tout le phénomène le plus dangereux. Et donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement à la prédiction des éruptions pour les phénomènes dangereux type nuit ardente. Alors là, je vous montre deux exemples un peu extrêmes, mais d'un même phénomène. Dans les deux cas, il s'agit de nuit ardente. À gauche, vous avez la montagne Pelée en Martinique en 1902, qui a dévasté la ville de Saint-Pierre et qui a fait donc 29 000 victimes en quelques minutes. Il y a eu zéro personne évacuée, puisque les autorités de l'époque étaient plutôt pour calmer les gens et les inciter à rester. Donc toute la ville a été rasée en quelques minutes. À droite, vous avez un exemple beaucoup plus récent, c'était en 2010, en novembre 2010, c'est au Merapi, à Java Centre, où il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont été évacuées et déplacés, et il y a eu 249 morts. Alors vous voyez le ratio extrêmement fort. Ces victimes sont des personnes qui n'ont pas suivi les consignes d'évacuation. Alors quelle est la différence entre... On parle bien du même phénomène, la même nuit ardente, des volcans, on va dire, un peu équivalents. La différence entre ces deux exemples, c'est qu'entre-temps, depuis 1902, on a compris qu'il fallait des observatoires, et des observatoires permanents qui surveillent ces phénomènes, et que c'était le seul moyen d'anticiper et de préparer une évacuation. Alors je vais commencer par un espèce de contre-exemple que je connais bien et dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la crise sismo-volcanique de la Soufrière de Guadeloupe en 75, 76, 77. Donc quelques chiffres, donc il y a eu 7 mois d'activité de surface, à peu près 16 000 séismes enregistrés, dont certains extrêmement forts, jusqu'à des magnitudes 4,5, c'est-à-dire capables de faire des fissurations dans les maisons, 26 explosions au total et 800 000 m3 de matériaux éjectés, c'est pas énorme pour un volcan. Des grosses éruptions, on parle de kilomètres cubes plutôt, d'énormes coulées de boue et 73 000 personnes qui ont été évacuées, c'est-à-dire tout le sud de la Guadeloupe, par anticipation pendant 3 mois et demi, ce qui a eu des conséquences économiques extrêmement importantes en Guadeloupe et dont on ressent les effets jusqu'à aujourd'hui. Alors à l'époque, il y avait 2 hypothèses contradictoires qui étaient présentées par les scientifiques. Une première hypothèse qui était de dire que ce phénomène était purement phréatique, c'est-à-dire lié à une interaction entre des gaz ou du magma chaud en profondeur et des nappes phréatiques, et donc c'était des explosions de vapeur, et donc un phénomène qui est sans risque, en tout cas à une certaine distance, parce que vous voyez sur les photos le bloc, le gros bloc fracturé que vous voyez là, il fait 2 mètres de haut, et ça ce sont des blocs qui ont été éjectés par les cratères de la Soufrière, hein, donc à quelques centaines de mètres, disons 1 ou 2 kilomètres, il y avait des phénomènes dangereux, mais à plus grande distance, il n'en était pas question a priori. Et la deuxième hypothèse était l'hypothèse d'une intrusion magmatique qui pourrait générer des éruptions type montagne pelée 1902, donc avec des effets dévastateurs et des milliers de morts en quelques minutes. Donc ces 2 hypothèses étaient soutenues par différentes personnes qui étaient plus ou moins en charge de ces responsabilités à l'époque. Alors on est plus de 30 ans après, donc je ne vais pas du tout rentrer dans la polémique qui a eu lieu à l'époque. Donc il y avait une première thèse qui était tenue par M. Tazieff, hein, et puis l'autre qui était tenue par l'IPG et notamment par son directeur de l'époque, Claude Allègre. Ce qu'on peut dire après toutes ces années, c'est que finalement, ces hypothèses étaient basées sur un certain nombre d'a priori et de méconnaissances liées aux phénomènes volcaniques et à ce qu'on appelle maintenant les scénarios éruptifs. Alors notamment, on ne connaissait rien sur le passé géologique de la Soufrière. On ne savait pas le type d'éruption qu'elle était capable de faire. Et évidemment, c'est une base importante pour construire des scénarios et faire des prévisions. On avait une méconnaissance alors des scénarios éruptifs possibles, c'est-à-dire de quelle façon une éruption type phréatique pas très dangereuse va se transformer au cours de l'activité volcanique en phénomène plus dangereux type nuit ardente. Et ça, il y avait très peu d'expériences de ce type-là. Elles sont venues après 1976. Il y a eu notamment le Sainte-Hélène, le Pinatubo, l'Unzen ou la Soufrière de Montserrat. Tout ça, c'est venu après et on n'avait pas cette expérience-là. Il y avait très peu d'expériences finalement de suivi instrumental. Donc on installait des instruments sur les volcans à l'époque, mais on avait peu d'expériences d'interprétation en termes quantitatifs et notamment, le dernier point, en termes de modèles physiques à partir duquel on puisse faire des évaluations, des prédictions purement quantitatives. Donc cette expérience a été, par exemple, suivie de 10 années de recherche en géologie et c'est donc en 1986 que la première carte géologique de la Soufrière est sortie. Donc la réponse à une des questions fondamentales qu'on se posait à l'époque, elle a été donnée seulement 10 ans plus tard, parce que cette éruption a eu au moins le mérite de donner des moyens aux observatoires, et tout le monde a pris conscience qu'il fallait faire des recherches fondamentales et mettre des moyens dans les observatoires volcanologiques. Donc par exemple, sur la Soufrière, vous avez ici un graphe qui vous montre l'histoire de la construction du massif, hein, tel qu'on a pu le refaire à partir des études géologiques. On a vu notamment qu'il y avait eu la dernière éruption de la Soufrière était de type Sainte-Hélène 1980, c'est-à-dire des grosses explosions, je vais en parler dans un instant. Et puis il y a eu de très très nombreuses déstabilisations de flancs, ce sont des phénomènes extrêmement dévastateurs, et probablement que les déstabilisations de flancs sont le phénomène le plus fréquent sur ce type de volcan. Tout ça, on ne peut l'apprendre qu'en faisant des études à long terme. Alors, Sainte-Hélène 1980, donc on est 4 ans plus tard, et là, c'est la naissance de la volcanologie instrumentale. C'est le premier phénomène important volcanologique avec une sortie de magma et puis ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est-à-dire un volcan qui explose et qui perd 400 mètres de son altitude avec 3 km cubes de roche éjectée. Et ce volcan était entièrement instrumenté. Il y avait des mesures de déformation du sol, il y avait des sismomètres, il y avait des mesures de gravimétrie, il y avait des mesures de flux de gaz. Et donc c'est la première fois qu'on suit complètement un phénomène volcanique à partir d'instruments de mesure. À partir de ça, il y a eu toute une série d'études qui a pu être lancée, notamment sur l'activité du Sainte-Hélène qui a suivi cette grande éruption. Et là, je vous montre par exemple des exemples d'éruptions du Sainte-Hélène toujours en 82 et puis également une éruption en 89. Et vous voyez alors sur le graphe de gauche un certain nombre de paramètres qui étaient mesurés sur ce volcan. On calculait des énergies sismiques cumulées. C'est le premier graphe. On avait des mesures d'expansion du dôme, des mesures de distance, également des mesures d'inclinaison. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Et puis des mesures d'émission de gaz soufrés. Et vous voyez sur ce graphe de gauche que tous ces paramètres donnaient des signaux d'accélération, quels qu'ils soient, et qui ont permis de faire les premières prédictions d'explosion. Alors c'est ce que vous avez sur le graphe de droite, avec une méthode totalement empirique qui concerne en fait la modélisation d'une rupture de matériaux. Oméga peut être n'importe quel paramètre. Ça peut être une énergie sismique, ça peut être une inclinaison du sol. Ça peut être n'importe quelle mesure qui reflète quelque chose de physique sur le volcan. Et donc vous avez sur le graphique du bas ce qui ressemble à une exponentielle, donc ce sont les mesures par exemple d'inclinaison du volcan. Et donc par ce petit modèle, si vous prenez l'inverse de la dérivée temporelle de ce signal, vous avez une droite qui va couper l'axe des abscisses à un certain point qui correspond exactement à la fracturation, à la rupture du système. Alors c'est un papier de Nature de Barry Voigt en 1988 et qu'il a appliqué à un certain nombre de volcans. Et donc vous avez en bas le volcan Redoute en Alaska avec pareil un signal qui vous montre qu'on est capable de prédire au jour près la rupture du système à partir de simplement de ce modèle empirique. Donc tout en bas à droite, vous avez un suivi de la sismicité du Mont Sainte-Hélène avec les trois droites. Ce sont les fenêtres de prédiction et qui montrent que là, le 25 décembre 1989, on a été capable de prédire à plus ou moins un jour une éruption qui s'est produite à peu près 10 jours plus tard. Donc ça, c'est une méthode qui était très intéressante, qui permettait de donner l'instant de la rupture du système. Simplement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ces phénomènes volcaniques, il ne suffit pas de savoir quand, il faut savoir où et combien aussi. Il faut faire des estimations de volume et des estimations des zones qui vont être affectées, puisqu'il est question d'évacuation éventuelle de population. Et donc, les autorités responsables de la protection des personnes et des biens, donc en France, c'est par exemple le préfet, il a besoin de savoir quelle zone il va évacuer. On ne veut surtout pas refaire, comme en 1976, à la Soufrière de Guadeloupe, c'est-à-dire évacuer tout le monde par un espèce de principe de précaution avant l'heure à cette époque. Alors les questions qu'on se pose par une approche que je vais appeler déterministe, donc on va chercher vraiment à faire une modélisation physique des phénomènes, c'est de caractériser l'aléa, donc d'identifier le type de source, est-ce que c'est du magma, est-ce que c'est une source phréatique, est-ce que c'est une zone instable du volcan qui menace de s'effondrer, quelle amplitude, quels sont les volumes, la localisation, les directions supposées et enfin les délais temporels. On a vu qu'on pouvait répondre avec des méthodes totalement empiriques, mais sur ce point-là. On constate également qu'il y a une forte complexité des phénomènes. Un volcan, c'est un objet géologique extrêmement complexe et donc il y a une partie étude fondamentale qui est extrêmement importante. Et donc on a besoin pour tout ça de données physiques et géométriques, quantitatives, qu'on va rattacher à des modèles. Alors, dans un observatoire qui est chargé donc de faire cette surveillance, par exemple ceux qui sont sous l'autorité de l'Institut physique du Globe de Paris, donc les trois observatoires des DOM français, il y a ce problème d'allier à la fois la surveillance et la recherche fondamentale, parce que ces systèmes volcaniques dont je parlais sont des systèmes complexes, et il y a encore plein de choses qu'on n'a pas comprises. On connaît les grands principes, mais chaque objet géologique, chaque volcan est différent, donc il y a toute une étude fondamentale à faire. Donc ce que je montre là, c'est un espèce de schéma de cycle de recherche. On va chercher à construire un modèle phénoménologique du volcan et à le faire évoluer en fonction du temps. Donc pour ça, on va choisir des techniques de mesure et on va choisir des sites appropriés. On va effectuer ces mesures, en général sur du long terme. Ensuite, on va traiter ces données et les valider. Et puis ensuite, on va les injecter dans un modèle. Ça suppose des hypothèses. On va les interpréter et tout ça va faire évoluer notre modèle phénoménologique du volcan. Et finalement, la surveillance et la prédiction, ça va être d'utiliser les données validées en temps réel et les injecter dans ce modèle phénoménologique pour faire une prédiction à court terme. Alors je précise ce point-là pour aller à l'encontre d'une idée reçue qui est même éventuellement dans certains observatoires, qui est que la surveillance et la prédiction, c'est uniquement l'utilisation de données en temps réel, bien placées. Nous, on pense que ces données temps réel brutes doivent être interprétées à travers un modèle d'interprétation. Alors maintenant, j'en viens à donc une des approches. Alors il y a énormément d'approches différentes qui permettent d'aborder ce problème de modélisation des systèmes volcaniques. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de ce que j'ai appelé la tomographie mécanique, ce qui consiste à essayer de contraindre les structures internes du volcan, et notamment les interfaces entre les fluides et l'encaissant, à partir de mesures de déformation du sol. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'un volcan se déforme? J'en ai parlé un peu tout à l'heure sur le Mont Sainte-Hélène. On a vu que c'était des signaux extrêmement importants avant les éruptions. Vous avez un petit schéma à gauche là qui vous schématise une chambre magmatique dans laquelle il y a du magma sous pression. Cette pression s'applique sur les parois de la chambre magmatique, s'applique également sur les parois du conduit magmatique. Il y a des flux de matière qui remontent à la surface. Le magma, c'est un fluide qui peut éventuellement être extrêmement visqueux. Ensuite, ce magma arrive en surface et sur certains types de volcans, comme les volcans des Antilles ou d'Indonésie, ça va former un dôme de lave. Ce dôme de lave va exercer une certaine pression sur son socle. Et donc tout ça, ce sont des contraintes, des pressions qui engendrent des déformations du volcan. Alors, si on veut faire un modèle prédictif d'une éruption volcanique, on va avoir besoin de connaître ses géométries et ses structures. On va surtout avoir besoin donc, des conditions aux frontières entre la dynamique des fluides, donc il y a des gens qui vont s'intéresser à la modélisation purement de la dynamique des fluides magmatiques, et la mécanique de l'édifice. Finalement, c'est bien l'interaction entre ces deux objets qui va engendrer les éruptions. Donc, déterminer la géométrie des substructures internes, ça veut dire déterminer la géométrie de la chambre, du conduit magmatique, des fractures, et déterminer les paramètres des sources qui s'appliquent sur ces géométries, c'est-à-dire une variation de volume, une variation de pression, des variations de contraintes ou des variations de densité des fluides. Pour ça, une des solutions qu'on propose, c'est de faire des modèles mécaniques. Et donc, c'est ça ce terme de tomographie mécanique. Donc, à partir des déformations du sol et d'un modèle interprétatif, contraindre les sources et les structures du volcan. Alors, je fais déjà une première remarque, c'est que à partir de mesures de surface, il y a une non-unicité des solutions. Donc, c'est un des problèmes des mesures de déformation. Et donc, on va avoir besoin d'informations a priori et on va avoir besoin également de contraindre les mesures de surface à partir d'autres sources d'informations. Donc, nécessité d'une méthodologie pour mettre en œuvre cette méthode. Alors, les mesures du champ de déformation, c'est probablement le champ de recherche pour lequel il y a le plus de techniques hétéroclites. Bon, c'est lié à toute une série de raisons, et notamment l'histoire. Globalement, les instruments qu'on utilise viennent de toute l'instrumentation qui a été utilisée en géodésie et aux mesures des dimensions de la Terre. Donc, les mesures d'inclinaison du sol, par exemple, des variations de la verticale ou de sismologie. Et donc là, je vous ai montré sur le graphe de gauche, finalement, toutes les constantes de temps différentes qui doivent être couvertes par les techniques de mesure des déformations. Donc c'est une échelle logarithmique que j'ai mis à gauche, qui va de la seconde à une centaine d'années, et j'ai mis à droite les différentes techniques qui sont utilisées en mesure de déformation pour essayer de couvrir et de mesurer, d'observer ces phénomènes. Donc vous avez dans les hautes fréquences la sismologie, vous avez depuis quelques années la sismologie large bande qui permet de mesurer des phénomènes jusqu'à des périodes de temps de quelques heures, voire quelques jours. Vous avez les mesures d'inclinaison, d'extensométrie, de distancemétrie, de GPS, qui, elles, couvrent de la minute jusqu'à quelques années. Et puis, vous avez les techniques comme le nivellement ou la distancemétrie laser, qui sont utilisées depuis très longtemps, qui permettent de couvrir des périodes de plusieurs décades. Alors tout ça pour vous montrer que finalement, il n'y a aucune technique dans ce graphe qui permet de couvrir l'ensemble en une seule fois. Donc c'est un des problèmes des mesures de déformation, c'est qu'on est contraint à utiliser plusieurs techniques et à les combiner entre elles pour arriver à notre objectif qui est d'avoir des observations spatiales et temporelles continues entre guillemets. Donc on peut classer les méthodes de différentes façons. Vous avez un échantillonnage spatial, soit ce sont des stations ponctuelles, des stations en réseau ou de l'imagerie. Il y a différents échantillonnages temporels également. Il peut y avoir des mesures périodiques, continues ou sur une certaine bande passante. Il y a des différences en termes de couplage au sol. Il y a des méthodes avec des mesures au sol direct ou de télédétection. Et puis, chacune de ces techniques peut mesurer un paramètre qui peut être différent, comme un déplacement, un angle, une vitesse, une déformation. Chaque méthode a ses avantages et artefacts propres. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que pour utiliser ces techniques, il va falloir être extrêmement prudent et s'intéresser à ce que j'ai appelé ici les artefacts et à toute la problématique du couplage au sol, puisqu'une mesure de déformation, c'est avant tout un problème de couplage de l'instrument. Alors ici, je vous montre une petite étude qui a été faite il y a une dizaine d'années par nos collègues italiens, qui est d'installer des inclinomètres, donc des instruments qui mesurent l'inclinaison du sol, à différentes profondeurs dans des forages, et de faire une expérience sur plusieurs années. Et donc ils ont observé des choses qu'on connaissait de façon théorique, mais ils ont permis de le quantifier extrêmement précisément, qui est que le gradient thermique vertical, et notamment des variations diurnes et des variations annuelles de température, diminue avec la profondeur. La question est jusqu'à quelle profondeur il faut installer ces instruments pour s'affranchir des variations de surface, qui ne sont pas les phénomènes qui nous intéressent en premier. Et donc cette petite étude a permis de montrer qu'il fallait, si on restait en surface, en tout cas, on s'exposait à des variations thermiques importantes et donc à un niveau de détection des phénomènes volcaniques probablement insuffisant. Donc c'est par exemple l'exemple que vous avez sur ce type de station. C'est par exemple des stations qui sont installées sur le piton de la Fournaise à La Réunion, des stations de surface. Alors elles sont protégées thermiquement, elles sont elles-mêmes fabriquées à partir d'un clinomètre qui a été conçu par Pierre-Antoine Blum, qui était un physicien qui a fait sa carrière à l'IPG et qui a conçu des inclinomètres en silice, totalement en silice, donc avec un coefficient de température extrêmement faible. Donc l'instrument lui-même a très peu de variations thermiques, mais lorsqu'il est installé en surface, c'est le sol lui-même qui va se déformer sous les variations de température et sous l'ensoleillement diurne et annuel. Et donc vous avez sur la droite un exemple de signaux enregistrés. Alors ces deux signaux, vous voyez, ils se ressemblent énormément. Celui du haut, c'est la température de la roche, et celui du bas, c'est l'inclinaison. Et donc vous voyez qu'il y a une corrélation très forte, enfin ici une anticorrélation très forte entre les deux phénomènes. Alors malheureusement, ça a l'air d'être une corrélation premier ordre, mais ça ne l'est pas. Et si vous faites cette corrélation du premier ordre, vous vous retrouvez très rapidement avec des signaux extrêmement variables et du second ordre, et qui sont impossibles à modéliser, pour la bonne et simple raison qu'il faudrait avoir une description complète, notamment du réseau de fractures en surface, qui joue un rôle très important sur les déformations. Et puis il faudrait avoir une mesure continue de l'ensemble du champ de température de la roche et probablement à différentes profondeurs. Donc ces signaux-là ont un niveau de bruit qui est extrêmement important. Alors ça veut dire que s'il y a une éruption, il faudra que les signaux soient bien plus importants que ce que je vous montre là. Une autre solution pour installer des inclinomètres, c'est de les mettre dans des puits. Alors là, c'est par exemple un exemple d'une équipe allemande qui a installé sur le Merapi en Indonésie. Alors, sauf qu'ils ont fait ces forages, donc une dizaine de mètres de profondeur, mais ils ont creusé dans des sols meubles et dans lesquels il pouvait y avoir des infiltrations d'eau. Et en fait, ils ont observé le graphe que vous avez à droite. Donc ils avaient un niveau de détection à court terme, donc à l'échelle de quelques jours, qui était relativement bon, mais les signaux que vous avez à droite, ce sont essentiellement les effets d'infiltration de fluide dans le sol. Donc ces instruments, plus ils sont sensibles, plus on va enregistrer des faits indésirables, et notamment là, vous avez une parfaite corrélation entre les signaux enregistrés par l'inclinomètre et la pluie, les pluies tropicales qui se produisent sur le volcan. Donc cette expérience n'a pas permis d'enregistrer de signaux liés à l'activité volcanique. Alors une autre solution qui peut être investiguée, c'est d'installer des inclinomètres dans des cavités naturelles. Alors c'est le cas toujours sur le piton de la Fournaise. Il y a des tunnels de lave extrêmement nombreux qui permettent de limiter énormément les variations de température. Donc toujours, le graphe du haut, c'est la mesure de température de la roche. Et puis celui du bas, c'est la mesure d'inclinaison. Donc on a gagné un facteur 10 facilement sur le niveau de bruit. Par contre, là, vous avez des effets qui ne sont plus du tout linéaires et qui sont totalement impossibles à modéliser, puisqu'ils vont dépendre essentiellement de la géométrie de la cavité elle-même, qui est inconnue. Donc on a gagné en niveau de détection, mais il est toujours très difficile de modéliser ces signaux au-delà d'un certain point. Alors la solution qui paraît la plus raisonnable, c'est de faire des forages ou des tunnels à grande profondeur, et cette fois dans la lave massive. Et donc c'est ce qu'ont fait les Japonais, par exemple au volcan Sakurajima, il y a déjà plusieurs années de ça. Donc c'est très coûteux, mais ça permet de s'affranchir complètement des effets de surface. Et donc vous avez à droite, par exemple, des signaux qui sont... Vous avez l'échelle là qui est donnée sur le graphe de droite, qui est de 0,1 microradian. Donc je rappelle, un microradian, c'est un angle d'une élévation d'un millimètre à un kilomètre de distance. Ce sont les ordres de grandeur des déformations observées sur les volcans liées à des intrusions de magma. Alors une dernière technique qui a pu être développée sur le Merapi, c'est une solution un peu intermédiaire, c'est d'utiliser finalement un isolant naturel qui sont les dépôts de cendres sur des laves massives, donc c'est le graphe que vous avez à gauche. Donc une coulée de lave massive qui a été recouverte de dépôts cendreux, pas forcément très épais, mais qui joue le rôle d'isolant. Et donc en installant les inclinomètres sur à finalement 1 mètre de profondeur seulement, on obtient des niveaux de détection qui sont extrêmement satisfaisants. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver ce type de configuration sur tous les volcans et notamment aux endroits où on en a besoin. Donc finalement, on s'est orienté récemment vers finalement la solution forage. C'est ce que vous avez. Donc ça, c'est des expériences très récentes. Ça date de l'année dernière. Faire un forage sur un volcan aujourd'hui, ça se fait avec des prospections radar. Donc on commence par prospecter où on va forer pour ne pas tomber sur une cavité et pour être bien dans la roche massive. Ensuite, vous avez le chantier de forage. C'est des petits forages de 10 mètres. Et ça vous permet d'avoir, donc voilà, le graphe que vous avez à gauche. Les graduations à gauche sont de 0,1 microradian, donc 10 exposant moins 7 radians. Et donc on enregistre les marées terrestres, donc ce qui est une preuve d'excellent couplage de l'instrument avec le sol. Et puis là, le petit signal que vous avez, c'est un effet de charge de la pluie. Alors, au Piton de la Fournaise, il y a des pluies énormes. Hein. Il est tombé 200 mm en une demi-heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait comme quantité d'eau sur tout le volcan. Et donc, c'est l'effet de charge de cette eau sur la roche qui est enregistrée. Donc, et c'est un phénomène élastique. Hein. On voit le signal qui revient à sa dérive initiale. D'une variation diurne enregistrée de 2 millidegrés à 10 mètres de profondeur. Donc voilà typiquement le genre d'instrument avec la sensibilité qui nous intéresse. Ce que vous avez à droite, c'est un spectrogramme sur une semaine à peu près. Donc ça se lit de bas en haut, peu importe, c'est en fréquence. Donc ça va de 0 à 0,5 Hz. Donc ce sont des basses fréquences. Le graphe de gauche, c'est celui enregistré par l'inclinomètre de forage. Et celui de droite, c'est enregistré par un sismomètre qui s'appelle STS-1. Ce sont des excellents sismomètres très large bande du réseau mondial Géoscope qui est installé à quelques kilomètres de là. Et on voit que finalement, avec cet inclinomètre, on enregistre des bruits tout à fait comparables. C'est ce qu'on appelle le bruit microsismique. Ce sont les vibrations basse fréquence que vous enregistrez avec n'importe quel sismomètre installé sur Terre, liées essentiellement aux variations de la houle océanique, que vous soyez en bord de mer ou pas d'ailleurs. Donc le bruit microsismique est lié essentiellement à ce type de phénomène. Alors voilà, on a installé ces inclinomètres seulement en novembre et un mois plus tard, on avait notre première éruption. Donc vous avez ici les signaux enregistrés par cet inclinomètre donc début décembre 2010. Et donc en bas, c'est une graduation en heures. Et vous voyez que à peu près 2 heures avant le trait rouge qui simule l'éruption, 2 heures avant l'éruption, on avait les inclinaisons du sol, donc le léger gonflement du volcan lié à l'intrusion de magma. Alors en plus, qui s'est produit à 4 km de distance. Hein, le Piton de la Fournaise est un grand volcan et c'est à 4 km de distance que cette intrusion est détectée par ces inclinomètres. Alors, voir des déformations précurseurs avant les éruptions, c'est pas seulement l'année dernière qu'on l'a découvert, ça se fait depuis un certain temps, depuis qu'il y a des instruments aussi sensibles que les inclinomètres. Il y avait inclinomètres ou autres. Vous avez un exemple avec le Krafla, qui est un volcan islandais, dans les années 70, fin des années 70, où vous voyez ce cycle d'élévation et de déflation du volcan. Et à chaque fois que vous avez une flèche, c'est une intrusion magmatique qui s'est terminée par une éruption. Donc on voit vraiment ce cycle d'inflation-déflation du volcan qui montre que les matériaux réagissent de façon, dans ce cas-là, quasiment élastique à ces intrusions de magma. Et puis en bas, c'est le Kilauea, même type de volcan avec des laves très fluides. Cette fois, un inclinomètre et toujours les flèches indiquent les intrusions magmatiques. Et donc ce sont des volcans extrêmement actifs, en activité quasiment continue, et qui vous montrent qu'on a ce cycle d'inflation-déflation qui est très bien détecté par ce type d'instrument. Un autre exemple, ici à l'Etna, où là c'est ce qu'on appelle une éruption fissurale, donc une fracture qui s'est ouverte sur le volcan et qui a entraîné les signaux que vous voyez à droite, avec une échelle en microradians, toujours. Donc là vous voyez une bonne dizaine de microradians de déformation. Alors un dernier mot sur les traitements de données. Ici c'est un exemple sur les signaux d'inclinaison sur le Merapi. Alors le signal d'inclinométrie originale, c'est la courbe rouge, de plus grande amplitude. Et donc à partir des mesures de température, qui est la courbe bleue qui est en bas, on a utilisé des techniques de filtrage un peu évoluées qui permettent de corriger des effets thermomécaniques dans un cas avec une approximation linéaire mais non stationnaire. Et donc c'est le résultat, c'est la courbe que vous avez en mauve. Et donc on voit qu'on a réussi à corriger une grande partie des signaux thermiques. Et la courbe verte, ce sont les marées terrestres théoriques. Et donc on voyait qu'avec cette correction de signal, on a réussi à détecter à l'intérieur de ce grand signal rouge, il y avait un petit résidu qui sont les marées terrestres, donc avec une amplitude en inclinaison qui est de 10-7, donc ce qui montrait l'efficacité de ce type de traitement. Alors là, je vais parler beaucoup d'inclinométrie. Ce dont on a besoin pour caractériser le champ de déformation sur un volcan, c'est une bonne description de ce qu'on appelle le champ de déformation, c'est-à-dire les déplacements en tout point avec une description spatiale et temporelle la plus fine possible. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable. Dans le cas du Merapi par exemple, qui est un grand volcan de 3000 mètres d'altitude, il faut 4 heures de marche pour l'atteindre. C'est un volcan dangereux, il fait des éruptions régulièrement. Et donc on ne peut pas aller partout, donc vous avez le graphique de droite, c'est une représentation de la topographie du sommet du Merapi, donc c'est un cratère en forme de fer à cheval, à l'intérieur duquel il y a un dôme de lave qui évolue, qui se construit, qui se déstabilise en faisant des nuées ardentes. Et donc les points que vous avez représentés sur ce graphique sont les points de mesure sur lesquels on a fait des mesures de déplacement. Alors ici c'est une technique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, une technique qui permet de faire des mesures GPS qu'on appelle cinématiques. donc il permet d'aller assez vite et de les mesurer sur beaucoup de points. Donc là, c'est une petite technique qu'on a mise au point qui permet, alors quand on fait ça, c'est utilisé par exemple par les topographes. Simplement, la précision, elle n'est pas très bonne, elle est de l'ordre de 10 cm, ce qui n'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc là, la technique a été de combiner sur le graphe que vous avez à gauche des mesures cinématiques et ensuite de les contraindre par un petit problème inverse à partir de mesures statiques, mais quelques mesures statiques bien choisies, qui vont permettre de répartir les erreurs sur l'ensemble des points. Donc c'est une compensation conjointe. On appelle ça une compensation de réseau, donc des mesures très précises combinées à des mesures moins précises, et avec un petit problème inverse et une inversion de matrice linéaire, on obtient une précision, on gagne un facteur 10, donc à peu près 1,5 cm de précision sur l'ensemble des points. Donc ça a permis, une technique comme ça, de faire des mesures très régulièrement sur ce volcan qui est très difficile d'accès, sur lequel on ne peut pas installer des stations permanentes à cause de l'agressivité des gaz volcaniques notamment, et ça a permis d'obtenir des très beaux résultats. Ce que vous avez là, donc ce sont des vecteurs de déplacement observés en fonction du temps à différentes périodes, et donc vous voyez sur ces graphiques ces vecteurs de déplacement qui d'une part peuvent être très importants, supérieurs au mètre, 1,50 m de déplacement, et vous voyez également que c'est très inhomogène et que cette description dense du champ de déplacement permet de localiser notamment des fractures, actives, des discontinuités importantes dans l'édifice qui jouent un rôle fondamental dans les phénomènes qui sont liés aux déstabilisations de flancs et aux déformations liées à la poussée de magma dans le conduit. Alors, une dernière technique qui est très utilisée dans la surveillance du champ de déformation, ce sont les techniques interférométriques radar par satellite. Alors, c'est une technique qui permet de faire un interférogramme à partir de deux mesures, deux images radar. Le satellite, lorsqu'il passe à peu près sur la même orbite, on a les conditions requises pour faire de l'interférométrie. Et donc ça donne l'image que vous avez en bas à gauche. C'est une image alors colorée, ce sont des phases. Donc vous avez un cycle de phases. Un cycle de phases correspond à 2,8 cm sur la longueur d'onde en déplacement, enfin supposé en déplacement. Et donc ça permet de détecter des déformations sur des très grandes surfaces par ces techniques d'imagerie. Alors le problème de cette technique, c'est assez nombreux, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on a un problème de cohérence, c'est-à-dire que si l'état de la surface du sol a changé entre les deux images, vous avez une perte de cohérence, et donc l'image, vous n'avez pas possibilité de faire un interférogramme. Le deuxième problème, c'est que vous avez un effet de retard lié à la troposphère. Alors la troposphère, donc, c'est les 17 premiers kilomètres en moyenne de notre atmosphère, et donc les ondes radar qui sont capables de traverser les nuages, donc c'était l'intérêt de cette technique, et en revanche ils peuvent être retardés partiellement par les conditions atmosphériques de la troposphère, notamment la teneur en eau et la pression. Et donc l'image que vous avez en bas à gauche, en fait, ce ne sont pas des déformations du sol, alors c'est sur l'Etna, en Sicile, ce ne sont pas des déformations du sol, c'est un effet purement lié à la troposphère, puisque c'est une image qui a été prise à 3 jours d'intervalle, et on sait par tous les réseaux de surveillance du volcan qu'il n'y a pas eu de déformation du sol à ce moment-là. Donc vous voyez que les franges que vous observez sont entièrement liées à ces retards troposphériques. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de modéliser ces retards troposphériques en utilisant simplement un modèle de couche horizontale homogène, et on a essayé de le combiner avec un modèle de déformation du sol. Alors en fait, sur ce type de technique, ce problème de retard troposphérique avait été pointé du doigt par les premières personnes qui ont publié sur cette thématique, mais comme elles ne savaient pas comment le traiter, elles l'ont laissé un peu de côté en espérant que c'était négligeable. Et donc ce qu'on a montré avec cette étude, c'est une étude qu'on a faite il y a une dizaine d'années avec des collègues, c'est que en fait, on était capable de dissocier les déformations du sol liées un phénomène interne dans le volcan, des retards troposphériques observés sur les images. Alors notamment, c'est lié, la raison principale est l'angle d'incidence. Hein, donc le satellite, en fait, ne regarde pas verticalement, mais regarde avec un angle d'incidence qui est à peu près de 23 degrés. Et finalement, cette vision oblique du volcan est une des raisons qui permet de dissocier les déformations du sol et ce retard. Donc le graphique que vous avez en haut à droite, la courbe rouge correspond à une relation entre un retard troposphérique et l'élévation du sol. Donc chaque point correspond à un point du volcan. Et donc c'est un gros volcan, l'Etna, il monte à plus de 3000 mètres. La courbe rouge, c'est le modèle troposphérique, et les points noirs sont les déformations liées à une déformation du sol liée à une source magmatique qui est ici simulée. Et donc vous voyez que les deux phénomènes sont très différents, alors qu'au premier abord, on pourrait se dire une source de déformation dans le volcan, ça crée une image qui est globalement corrélée à la topographie, et les retards troposphériques vont également, avec un modèle de couche, être corrélés à la topographie. Donc on a pu faire un modèle conjoint pour essayer de retrouver d'une part les paramètres liés à la troposphère et d'autre part les paramètres liés aux déformations du sol. Alors, je vous donne juste un exemple. On a traité 250 interférogrammes sur une période de plusieurs années. À gauche, vous avez un exemple d'interférogramme observé sur l'Etna. Donc, vous voyez ces courbes concentriques qui sont observées. L'image du milieu, c'est le modèle que nous, on a proposé, donc avec une combinaison de modèles troposphériques et de déformations du sol. Et vous voyez qu'on reproduit assez bien, donc les zones où on ne voit pas bien les franges sur la gauche, ce sont les zones incohérentes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, ça veut dire qu'entre les deux images, l'état de la surface du sol a changé, donc on n'est plus capable de retracer l'interférogramme. Et donc notre modèle, c'est la courbe du milieu, et à droite, vous avez les modèles qui étaient proposés de déformations du sol. Et donc vous voyez que notre modèle qui intègre la troposphère est beaucoup plus proche de la réalité que ne l'était le modèle de déformation qui était proposé auparavant. Ce modèle conjoint nous a permis de à la fois inverser la source de déformation sous le volcan avec des estimations de variation de volume en fonction du temps, donc les effets de pression dans la chambre magmatique, et puis ce que vous avez juste en dessous, le modèle de troposphère qui est donc déduit des mesures de déformation, enfin des mesures interférométriques radar. Et ce que vous avez en haut à droite, c'est la comparaison entre ce que nous avons déduit de notre modèle et puis d'une mesure totalement indépendante qui sont des estimations. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les mesures GPS permettent d'aider maintenant les météorologues puisque en calculant des solutions GPS, on arrive à déduire des paramètres de la météorologique qui sont liés donc au délai de traversée de l'ionosphère et de la troposphère. Et donc ces mesures indépendantes montrent qu'on a une assez bonne cohérence. Donc on a deux mesures avec deux techniques qui sont totalement indépendantes. Donc cette inversion conjointe, ça a été un papier donc de 2000 au Journal of Geophysical Research, qui est extrêmement cité parce qu'il a un peu posé les bases de cette problématique et du fait qu'il fallait faire extrêmement attention quand on interprétait des données interférométriques d'une nouvelle technique sur ces problèmes d'artefacts. Alors je vous donne l'image qui est en bas à droite. C'était la couverture du magazine Nature, un numéro de 95, qui montrait justement la première déformation de volcan observée par interférométrie satellitaire sur l'Etna. Et malheureusement, cette image-là, c'est une des images qui, d'après nos études, comprend énormément de troposphère et non pas de déformation du sol. Alors j'en viens à la partie modélisation proprement dite. Alors de quelle complexité on va avoir besoin pour modéliser toutes ces données ? Il y a deux modèles qui sont extrêmement utilisés, qui sont des modèles analogiques très simples. C'est le modèle de point source, qui est basé sur des équations mécaniques très classiques, disons celle d'Anderson de 1936, et puis c'est un certain Mogi, un japonais, qui a été le premier à l'appliquer à la volcanologie et a montré qu'on pouvait reproduire des déformations du sol sur les volcans à partir simplement d'un modèle de point source extrêmement simple. Alors il y a un deuxième modèle qui a été formalisé par un japonais, Okada, en 85, qui est un modèle de discontinuité une discontinuité plane, rectangulaire, dans un semi-espace élastique homogène. Et ce modèle-là est extrêmement utilisé parce que ce sont des modèles très simples à mettre en œuvre. Dans le premier cas, une équation extrêmement simple qui tient en une ligne. Dans le deuxième cas, un petit peu plus complexe, mais en tout cas, c'est facilement intégrable dans des modèles numériques, notamment, et donc facilement utilisable. Ces modèles-là, je vais vous montrer quelques exemples dans un instant, mais on sait déjà qu'ils ne vont pas suffire. On voit bien qu'on a besoin de complexité dans nos modèles. Donc on voit qu'on peut avoir plusieurs types de sources dans les volcans qui sont la source de déformation. On a des géométries multiples et éventuellement un peu complexes. On a besoin de la 3D. Les volcans ont tous une topographie. Ils ne sont pas tous parfaitement symétriques. On a besoin de modéliser des structures. On sait qu'il y a des discontinuités dans les milieux. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure des fractures. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc on va avoir besoin de complexité. Alors quand même, je vais vous montrer des exemples de modélisation avec ces modèles de sources ponctuelles, très simples. Là, vous avez toujours en interférométrie deux interférogrammes, donc ce sont les graphes les plus à gauche, sur un volcan qui est en Afar, qui a fait une petite éruption et qui a donné lieu à ces franges interférométriques, comme on a vu sur l'Etna tout à l'heure. Les graphes du milieu, ce sont les modèles qui sont reproduits uniquement avec ce modèle de point source. Ici, on a dû mettre deux sources de variation de volume. Et puis à droite, c'est le résidu, la différence entre le modèle et la donnée. Et là, vous avez en bas à gauche deux coupes qui sont faites dans cette image et qui vous montrent les données et le modèle, et vous voyez que ça se superpose parfaitement. Donc un modèle très simple de point source dans un milieu élastique, finalement, ça permet de reproduire assez bien ces phénomènes. L'avantage, c'est que là, on a le résultat de cette modélisation, c'est la position de la source, sa profondeur et la variation de volume associée. Et donc, on va pouvoir relier, par exemple, au volume de lave éruptée. Un autre exemple où ces modèles de points sources marchent bien, c'est à Montserrat, donc c'est une île des Petites Antilles, qui est en éruption depuis 1995. Et là, c'est à partir de mesures GPS. Donc, vous avez sur la carte de gauche des vecteurs de déplacement qui ont été enregistrés par ces stations GPS. Et sur le graphe de droite, vous avez, donc ce sont des années, on regarde des millimètres des variations verticales de déplacement en fonction du temps. Et vous avez ce cycle, comme on a vu avec les inclinomètres tout à l'heure, vous avez ce cycle, cette fois, sur les longues périodes de temps, d'inflation et de déflation. Et les zones grises verticales que vous avez derrière, ce sont les observations de sortie de lave sur le volcan. Donc vous voyez que vous avez une parfaite corrélation entre lorsque il y a sortie de lave sur le volcan, en fait le volcan est en déflation, et puis lorsqu'il n'y a pas de sortie de lave, vous avez une inflation, c'est-à-dire la pression augmente dans la chambre magmatique et dans le conduit. Alors voilà un modèle, ça c'est un article qui est sorti dans Science en 2008, un très simple modèle avec un système de points sources et avec un petit modèle de communication entre deux chambres et de transfert de fluide entre les deux chambres. Alors nous, ces modèles simples peuvent être une première approche du premier ordre, mais je disais tout à l'heure, on a besoin de complexité. Donc on va utiliser des modèles un petit peu plus détaillés, et pour ça, on a besoin de faire de la 3D. On a besoin de modéliser des structures et des discontinuités. Donc c'est un formalisme qui a été mis en place par ici Cayol et Cornet en 97, qui permet de modéliser des structures massives, notamment la topographie, des réservoirs, des conduits, d'y appliquer des pressions ou des contraintes, et de modéliser les fameuses discontinuités dont on a besoin. L'avantage de cette technique numérique, c'est que c'est une technique qu'on appelle d'éléments frontières par opposition aux éléments finis. Les éléments finis vont vous obliger à découper en petits éléments l'ensemble de votre milieu, et en 3D, ça peut être extrêmement coûteux. Les éléments frontières, en fait, vous faites de la 3D, mais vous ne maillez que des surfaces. Donc vous y gagnez énormément en temps de calcul, et ça vous permet, gagner en temps de calcul pour le problème direct, ça permet de faire de l'inversion, et c'est bien l'objet de notre travail. Alors, pour vous montrer l'importance de la 3D, je vous montre ici deux exemples des effets de la topographie sur les déplacements. À gauche, vous avez des mesures d'inclinaison qui sont simulées sur une topographie un petit peu compliquée. Donc, vous avez ici les deux profils en vert et en rouge qui sont sur une topographie marquée, simplement avec un modèle de pression dans une chambre magmatique à quelques kilomètres de là. Donc, un modèle plat va vous dire que vous avez une déformation homogène. Le modèle tridimensionnel vous montre la courbe que vous avez en bas à gauche, c'est-à-dire une courbe extrêmement chahutée d'inclinaison qui sont liées aux effets de la topographie, ici des vallées que vous avez sur la topographie du Merapi. Et vous voyez même que vous pouvez faire une inversion de signe. C'est-à-dire que si vous installez votre inclinomètre sur cette topographie chahutée, vous pouvez enregistrer une déflation et l'interpréter comme une déflation, alors qu'en fait, ça va être lié à une inflation du volcan. Donc, importance de la topographie. Et à droite, vous avez un autre exemple sur le piton de la Fournaise, de simulation, simplement d'un ce qu'on appelle un dike, donc une intrusion magmatique plane en ouverture, verticale, proche de la surface. Vous injectez du magma, ça fait une pression, il y a une légère ouverture, et vous avez le champ de déplacement que vous observez sur ce graphe, et vous voyez qu'il n'est pas du tout symétrique. L'asymétrie de ce champ de déplacement est liée entièrement à la topographie du volcan. Alors, un autre point important dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est l'importance des fractures. Vous voyez ici donc deux exemples, je vais me concentrer sur les deux graphes de droite. En haut à droite, vous avez le champ de déplacement, donc ce sont les petits vecteurs liés à une pression dans un conduit magmatique avec une topographie, mais sans fracture. Et le graphe en bas à droite, c'est exactement le même milieu, les mêmes pressions appliquées dans le même conduit, mais cette fois vous introduisez des fractures dans l'édifice. Et vous avez en fait un ordre de grandeur dans les déplacements. Ça paraît logique, mais il faut le dire, puisque les milieux en général sur les volcans sont extrêmement fracturés. Et donc ça veut dire que si on ne tient pas compte de la fracturation du milieu, on n'arrivera jamais à faire des estimations correctes de pression ou de contrainte. Un autre point important quand on fait ce type de modèle, c'est d'utiliser des techniques d'inversion à objectif représentationnel. C'est-à-dire, quand on fait un problème inverse, ce n'est pas de rechercher le meilleur modèle, c'est de faire une exploration de l'espace des modèles. Et donc là, vous avez un exemple avec simplement, on recherche un modèle de source, donc ici une chambre magmatique avec deux formes, forme ellipsoïdique et forme sphérique. Et donc les points que vous voyez, leur taille représente la probabilité du modèle. Et donc on va explorer l'ensemble des paramètres. Ici, je n'en cite que deux, hein, la profondeur de la chambre et la variation de volume de cette chambre. Et vous voyez que vous avez une répartition relativement importante et qui en plus va dépendre du type de source que vous allez utiliser. Donc vous voyez ici, de dire le meilleur modèle dans le cadre d'une inversion de ce type-là, ça n'a pas grand sens. C'est vraiment une description de l'espace des modèles qui est important. Et plus les modèles vont être compliqués, plus on aura besoin de cette méthode d'inversion à objectif représentationnel. Alors, je vais vous montrer un cas d'école. C'est les champs phlégréens. Donc les champs phlégréens, c'est un grand volcan qui est à l'ouest de Naples, qui est moins connu que le Vésuve, bien qu'il ait, il est tout aussi proche de la ville. Ce volcan est extrêmement actif, bien qu'il n'ait pas fait d'éruption depuis longtemps, depuis le XVe siècle. Mais son activité se traduit par ce que les Italiens ont appelé le bradycéisme. Ce sont des déplacements du sol de très grande amplitude, associés à de la sismicité très importante, mais il n'y a pas d'éruption. Et donc on observe ces déformations, elles sont mesurées avec toute une série de techniques. Par exemple, dans le graphe en haut à gauche, ce sont des mesures très anciennes qui ont été faites par des comparaisons de traces du niveau des mers sur des anciens temples grecs. Et plus récemment, on va faire des mesures de nivellement, des mesures GPS, des mesures interférométriques. Et donc vous avez en bas à gauche un petit graphe qui vous montre des données, et la ligne pointillée, c'est le modèle, un simple modèle de point source dans un demi-espace infini. Donc le modèle le plus simple qu'on puisse utiliser en déformation du sol. Et vous voyez qu'il y a un parfait accord entre les données et le modèle. Vous avez également un interférogramme, maintenant vous savez à quoi ça correspond. Les données, le graphe A, et le modèle, le graphe B. Vous avez également une parfaite coïncidence entre les deux phénomènes. Le problème, c'est que ces modèles sont faux. Ils sont faux parce qu'ils donnent une source de déformation qui est très superficielle, à peu près 2 km de profondeur. Or, sur ce volcan, il y a eu des prospections géophysiques, notamment ils voulaient faire de la géothermie. À un moment, il y a eu des projets de géothermie, il y a eu des forages de faits, et il y a eu des études extrêmement complètes sur ce volcan, et qui ont montré que la chambre, elle était au moins à 4 km de profondeur. Elle ne pouvait pas être à 2 km. Donc là, on est typiquement dans un cas où on a des très belles données. On a un modèle simple qui fit, on dit fitter, excusez-moi pour le terme anglais, les données, et on sait que le modèle est faux. Donc c'est tout ça pour rappeler que la modélisation de ces phénomènes naturels, ça ne veut pas dire faire un modèle qui correspond aux données. C'est bien de retrouver des paramètres physiques qui veulent dire quelque chose. Alors un des travaux que j'ai fait quand j'étais en Italie, c'est justement de faire un modèle réaliste, tridimensionnel, et qui va se baser sur les travaux de prospection géophysique qui avaient été faits à l'époque et qui montraient qu'il y avait une caldeira, une ancienne caldeira qui est symbolisée par les zones rouges et jaunes. Donc il y a deux caldeiras imbriquées, dont une en rouge qui est relativement active avec une activité hydrothermale, des circulations de fluide et donc une résistance mécanique probablement plus faible. Et donc on a modélisé cette discontinuité. Et donc on a fait un modèle de déformation qui tient compte de l'existence de cette caldeira tridimensionnelle. Et donc on a utilisé ça comme information a priori pour chercher à inverser les variations de pression dans la chambre magmatique. Et donc ce type de modèle a permis de mettre la chambre à 4,5 km, c'est-à-dire à l'endroit où les autres méthodes géophysiques la trouvaient. Donc ça vous montre encore une fois, et petit détail, on ajuste les données aussi bien, sinon même un peu mieux, on arrive à expliquer le second ordre qui n'était pas expliqué dans les données précédentes. Donc ça vous montre encore une fois que non seulement il faut faire des modèles complexes, mais il faut aussi ne pas se contenter d'une seule discipline. Les modèles qui ne se baseraient que sur uniquement des observations de déformation ne sont pas suffisantes. Un dernier exemple de modélisation un petit peu complexe, c'est ce qui a été fait sur le Merapi. Donc vous avez sur ce graphe le cratère en fer à cheval et puis les points de mesure de déplacement qui ont été mesurés de nombreuses années. Et puis vous avez les segments de droite correspondent à des fractures qui ont été identifiées par des observations visuelles de géologie sur le volcan. Donc de la même façon, on a utilisé ces informations géologiques comme données a priori dans nos modèles. Donc on a introduit ces fameuses discontinuités géologiques et on a mis différents types de sources dans le conduit magmatique. Donc en haut à droite, vous avez une source de pression. Et en bas à droite, vous avez une source de frottement, parce que le magma sur ce type de volcan est extrêmement visqueux. Et on savait déjà depuis les années 60 que cette sortie de magma très visqueux dans le conduit produisait notamment des séismes très particuliers qui étaient liés au frottement visqueux lors de la sortie du magma. Et donc on voit que finalement, faire un modèle où le flux de magma sur les parois du conduit magmatique provoque des déformations est beaucoup plus efficace qu'une variation de pression. Et donc on a eu l'idée de faire un modèle conjoint où on a inversé à la fois un paramètre de pression et un paramètre de cisaillement dans le conduit. Et on a ajusté nos données et ça donne la courbe que vous avez en bas à gauche. C'est-à-dire on a traduit finalement une évolution temporelle des frottements de ce magma visqueux en fonction du temps et qu'on a pu comparer avec le graphe tout en bas à gauche avec l'occurrence des séismes qui sont liés à ce frottement visqueux. On voit qu'avec ces mesures de déformation et un modèle un peu complexe, tridimensionnel et qui tiennent compte de différentes sources de déformation, on arrive à reproduire des phénomènes physiques et ça nous a permis notamment de déduire finalement quel est le flux de magma qui évolue sur ce volcan. Donc ça, c'était une découverte très intéressante puisque ça permettait de faire des estimations indirectes in situ des variations de flux magmatique, ce qui était des choses qui étaient très difficiles à faire auparavant. On a également fait une estimation in situ du module Young, qui est un des modules d'élasticité équivalent, qui a été trouvé un gigapascal, c'est-à-dire un ordre de grandeur en dessous de ce que nous donnaient les sismologues. Voilà, donc toutes ces mesures, finalement, nous permettent de déterminer un certain nombre de paramètres physique, et comme je vois que j'étais un petit peu long, je vais passer un tout petit peu plus rapidement. Ça, ce sont des inversions de sources magmatiques sur le piton de la fournaise, basées sur l'interférométrie. Donc là, on a des signaux très importants, et donc on n'a plus du tout de problème de... Ils sont bien au-dessus des phénomènes troposphériques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on voit que pour une éruption, on arrive à reproduire très très bien avec ces modèles tridimensionnels. Donc ça, c'est un travail qui est fait par les collègues de Clermont-Ferrand. On arrive à reproduire et à contraindre, je le disais en début d'exposé, les structures responsables de ces déformations. Également, une application intéressante des mesures de déformation, c'est le suivi temporel des intrusions magmatiques. Et donc là, vous avez par exemple les inclinaisons du sol. Alors cette fois, on parle de temps réel. C'est depuis qu'on a des instruments qui mesurent en temps réel et qui envoient leurs données à l'observatoire. On arrive à localiser, en fonction du temps, la source d'intrusion magmatique. Et donc sur le piton de la fournaise, ces techniques-là nous permettent de prédire de façon extrêmement précise le point de sortie de la lave avant une éruption. En faisant un simple modèle de pression magmatique dans le volcan, les mesures de déformation nous permettent de localiser et d'estimer une variation de volume associée à cette intrusion magmatique. Ça permet de prédire à quelques centaines de mètres le point de sortie de la lave entre quelques heures et au mieux quelques jours avant. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement utiles pour la prédiction. Un dernier exemple, c'est ce qui est fait sur la Soufrière. On a Soufrière de Guadeloupe, j'y reviens, un vrai cas tridimensionnel. La Soufrière de Guadeloupe, c'est un dôme de lave avec des fractures extrêmement profondes. Il serait totalement irréaliste de modéliser les déformations de ce volcan avec un modèle qui ne tienne pas compte de cette topographie et des fractures. Donc c'est ce que nous avons fait à partir de mesures d'extensométrie. Et donc voilà, la modélisation numérique avec un modèle de source et encore une fois, une contrainte importante de ces sources avec d'autres types d'observations. Par exemple, en haut à droite, vous avez des mesures de tomographie électrique qui nous permettent de donner des contrastes de résistivité électrique dans le volcan. Et ça montre que les sources qu'on déduit des modèles de déformation sont compatibles avec ce qu'on observe. Alors j'ai une image juste après, je crois. Ce que vous avez à gauche, hein, donc ce sont des images de résistivité électrique faites par tomographie et qui vous montrent l'endroit où il y a très probablement des surpressions de fluide. Alors dans le cas de la Soufrière, je vous rassure, c'est pour l'instant a priori des surpressions de vapeur d'eau qui sont observées. Mais on voit que l'ensemble de ces données permettent de faire des modèles cohérents vers un modèle physique quantitatif. Alors je vais conclure. On a vu que ces modèles de déformation nous permettaient de nous orienter petit à petit vers notre objectif initial qui était de faire un modèle prédictif en temps réel. Alors on n'est pas au bout de nos peines parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'une modélisation tridimensionnelle qui intègre les discontinuités et on voit que ces modèles parfois expliquent le premier ordre et que si on n'utilise pas ces trois dimensions et ces discontinuités, on passe complètement à côté des phénomènes. Une autre marque, c'est que le champ de déformation, il est unique. On a vu qu'il y avait plein de techniques différentes pour le mesurer. Il y a encore très peu de personnes qui utilisent l'ensemble des techniques et qui cherchent à les intégrer au sein d'un même modèle. Donc on peut avoir des modèles qui donnent finalement des choses contradictoires. L'objectif de la modélisation, c'est pas de fitter les données, comme je disais tout à l'heure, de reproduire les données, c'est bien de déterminer des paramètres physiques associés au phénomène qui nous intéresse, parce que c'est la seule chose qu'on va pouvoir comparer avec nos collègues des autres disciplines, notamment en géophysique et en géochimie. Donc seule une modélisation réaliste permettra une quantification de ces paramètres. Et puis, approche pluridisciplinaire indispensable, j'en ai parlé un peu, on cherche à construire ce qu'on va appeler un volcan numérique, c'est-à-dire d'arriver à mettre dans un modèle unique l'ensemble des paramètres physiques et chimiques. Et donc c'est le fameux modèle d'interprétation dont je vous parlais au début, qui va servir de base au modèle prédictif et aux estimations, notamment temporelles et d'ampleur des éruptions auxquelles on peut s'attendre. Voilà, je vous remercie de votre attention.
C'était François Bauducel, dont la conférence portait sur la surveillance volcanique de la mesure instrumentale au modèle prédictif, une conférence donnée au Bureau des Longitudes en juin 2011. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Académie, dans les émissions En Colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur le site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.